Avant de commencer le webinaire, sachez que le webinaire sera enregistré. Donc, tous les échanges du chat ainsi que les présentations des intervenants seront enregistrés et seront disponibles après le webinaire pour consultation. De même, compte tenu du nombre important de participants, nous avons opté pour supprimer l'accès aux caméras et aux micros. Les questions que vous souhaitez poser le seront à partir du chat. Et deux d'entre nous, deux personnes de l'équipe d'organisation de ce webinaire, Johanna Janik et Maurice Lieb, seront en charge donc de modérer ces questions et de les poser après chaque intervention, voire éventuellement à la fin du webinaire, après la synthèse que nous présentera Joachim Schopfel en fin de webinaire. Enfin, si un problème technique devait intervenir, vous avez à la fois sur la liste dans un des premiers messages du chat hein, et ici le lien de secours. Qui vous permettra de vous connecter donc sur un salon virtuel complémentaire. Donc sur ce rappel de ce programme, je voulais indiquer que le GT Interréseau Atelier Données poursuit donc à travers ce webinaire ses actions qui illustrent les objectifs qu'il s'est fixés pour la construction d'une réflexion sur la gestion des données que l'on souhaite aborder sous l'angle métier et des réseaux. Il s'inscrit donc dans la continuité de la journée thématique de 2018, hein, consacrée à l'interopérabilité, la pérennisation des données sous l'angle des principes FAIR, puis du hackathon organisé à Grenoble en début d'année 2020, portant, lui, sur la préparation et le dépôt des données dans un entrepôt. Compte tenu de son ancrage auprès des réseaux, ce webinaire est prioritairement destiné aux réseaux métiers et professionnels, mais plus largement à tous les producteurs et utilisateurs de données scientifiques. Il s'appuiera sur plusieurs exemples abordant la question de la production, rédaction de data paper dans un flux intégré de publication de jeux de données, mais également sous l'angle de la mise en place de recommandations et la question d'expertise de data paper au sein d'une revue. Donc on a choisi ces deux angles d'approche pour ce webinaire. Ces présentations seront accompagnées ou suivies de témoignages de producteurs de data paper qui feront part de leur expérience, éventuellement des freins qu'ils ont rencontrés. Voilà. Mais tout d'abord, pourquoi un tel engouement? En reprenant les arguments développés dans la présentation de ce webinaire, l'angle que l'on souhaite aborder, c'est l'angle des professionnels d'accompagnement de la recherche qui participent pleinement en fait, à la valorisation des résultats scientifiques, qui participent à différentes étapes des projets, parfois dès leur mise en place, c'est le cas avec la constitution des plans de gestion de données notamment, à la mise en œuvre aussi de processus d'acquisition et également par le développement d'outils adaptés. Ils participent à tout ou partie de ce qui est désormais communément appelé le cycle de vie de la donnée. Cela s'inscrit dans des recommandations à l'échelle internationale, mais également nationale, puisque le plan national pour la science ouverte annoncé en 2018 s'inscrit pour la diffusion en fait sans contrainte des publications et autant que possible également des données de la recherche. En 2019, le Collège Données du Comité de la Science Ouverte, le COSO, publie sur son site un guide stratégique qui émet sept recommandations. Et parmi ces recommandations, la recommandation numéro 3 concerne l'encouragement à l'écriture d'articles de données. Ce même comité recommande la mise à disposition de l'ensemble des types de documents et plus largement de produits de la recherche. Aujourd'hui, c'est également les organismes financeurs qui exigent de plus en plus d'établir de manière claire, complète et transparente un cahier des charges précis sous la forme du plan de gestion de données, donc afin d'assurer l'accès aux ressources produites par tout projet de recherche. Par ailleurs, les institutions et les communautés qui en dépendent s'organisent progressivement et proposent désormais également en accompagnement un panel de services et d'outils susceptibles de parvenir à cette open science. Donc en fait, on n'est plus directement et uniquement dans le cycle de vie de la donnée, mais bien dans le cycle de vie des projets de recherche, de leur initiation jusqu'à la restitution de l'ensemble des ressources qui ont été produites. Cette dynamique contribue fortement, effectivement, à promouvoir plusieurs formes éditoriales, dont le data paper. Alors, publier des données, c'est quelque chose qui est désormais accessible avec les différentes infrastructures mises à notre disposition. Publier des données, ça permet, comme vous le montre ce schéma publié en 2014, d'atteindre un niveau d'accès et de qualification, de description suffisante pour, en respectant les recommandations des entrepôts choisis, pour être publié. En revanche, reste rare encore cette dernière brique qui est la validation, c'est-à-dire l'expertise du jeu de données, pour être validée et également assurer une publication optimisée. C'est cette validation et cette expertise que permet le data paper. Et si tout fonctionne, je vous propose, plutôt que un long discours, de voir. Une petite vidéo. Voilà, donc c'est une vidéo qui provient des ressources d'Uranum, donc mis en place par l'INIST. Vous trouverez donc sur le site de l'INIST et sur d'Uranum un certain nombre de ressources liées au data paper. Je pense que cette courte vidéo vous montre en tout cas que le data paper est une publication au sens propre, une publication scientifique au sens propre, qui suit le même cheminement qu'une publication académique. Après cette présentation rapide, qu'en est-il réellement de l'utilisation du data paper? Si certaines communautés produisent déjà des data papers de longue date, hein, on aura un exemple du GBIF tout à l'heure qui montre que cette formule est déjà exploitée depuis longtemps. Une récente étude menée par Joachim Schöpfel, Dominique Farras, Hélène Prost et Antonella Zahn, Data Papers as a New Form of Knowledge Organization in the Field of Research Data, disponible sur HAL. Montre que dans le cadre de l'enquête qui a été menée par cette étude, qui correspond à une centaine, je crois, de journaux, les data journals ne représentent que 0,5% des revues académiques. Une autre étude un peu plus ancienne, dont vous avez le lien et qui est disponible également, ouvertement, montre que les data journals, sur une enquête qui touche 1000 services, avec 787 réponses, pareillement, un taux très faible d'exploitation du data journals. Alors, pour détourner aussi un titre du même article que je viens de citer de Joachim Schöpfel et de ses co-auteurs, qui écrit, qui publie, qui lit, on s'aperçoit que effectivement, le data paper n'est pas encore bien reconnu, peut-être bien utilisé pour décrire et accompagner les jeux de données. Néanmoins, faut-il se poser la question de savoir s'il est désormais indispensable, est-ce que c'est le seul moyen pour qualifier et valider des jeux de données? Est-ce que c'est une forme nécessaire de publication qui accompagne les données? Je pense que les pratiques de la recherche scientifique sont en train de changer à des degrés différents. Les communautés ne sont pas toutes arrivées au même point pour l'exploitation de ce format éditorial. Les différents acteurs dans la production des données sont-ils plus impliqués dans la transparence et la mise à disposition des données? Je pense, comment dire, par obligation et par recommandation, mais là aussi, l'ancrage il n'est pas encore optimal. Et surtout, et c'est ce qui intéresse également l'angle d'attaque de ce webinaire, est-ce une opportunité pour les personnels d'accompagnement de la recherche de valoriser leur rôle en participant et en prenant part à différentes étapes du développement des projets de recherche? Pour illustrer ces derniers points, je vous fais part d'un exemple de traitement au sein d'un projet de recherche, la mise en place d'un data paper et d'une stratégie de publication coordonnée par Louis Manière, hein, qui n'a pu être présent avec nous aujourd'hui, qui est ingénieur système d'information géographique au laboratoire ISOMA et qui a développé avec l'équipe de cette ERC, qui est l'origine en fait du projet, comme vous pouvez le constater. Donc une douzaine de chercheurs et d'ingénieurs participent directement à cette ERC des Air Networks. Et un projet qui se veut fondamentalement participatif a mis en place une stratégie en fait de publication pour illustrer une nouvelle méthodologie sur la reconstitution des réseaux de transport antiques, avec la volonté d'expliquer la démarche et de mettre à disposition les outils développés à cette occasion pour la reproduire. En fait, la communication s'est articulée en trois phases ou en trois ensembles. Le premier qui est l'article principal publié, donc l'article scientifique de synthèse, puis un dépôt des données correspondant à la démarche sur un entrepôt institutionnel, en l'occurrence ici Zenodo. Et accompagnant ces deux premiers ensembles, la création et la publication d'un data journal qui accompagne donc le jeu de données, qui en décrit l'origine et la portée. Et ce data paper, qui n'est pas encore visible actuellement, est en cours d'évaluation au sein du Journal of Open Archaeology Data. Donc nous avons bien trois segments, trois éléments qui viennent soutenir le projet de recherche initiale. Les motivations de la rédaction du data paper, qui vient très clairement en complément de la publication principale, permet donc de viser les objectifs de recherche, c'est-à-dire en fait diffuser les données auprès des chercheurs qui travaillent bien sûr sur la région d'étude, permettre la reproductibilité et la réplicabilité sur d'autres terrains d'études, avoir accès à une documentation du jeu de données publié avec comité de lecture, donc avec validation, et surtout, en l'occurrence, détailler des aspects techniques pour réutiliser les données et permettre un transfert de méthodes que l'on peut facilement, du coup, compte tenu de l'importance et de l'ampleur de la démarche, exclure d'une publication traditionnelle, faute de place ou bien parce que ne correspondant pas non plus à la ligne éditoriale de la revue. Ce jeu de données donc est accessible directement sur Zenodo Et si j'ai voulu mettre cette dernière slide, c'est pour montrer qu'effectivement, les auteurs de cette de ce dépôt, Louis Manière, Maëlle Crépy et Bérangère Redon, sont cités ici, mais également les autres acteurs de l'équipe, data collector, data manager, project leader, researcher, etc. Vous avez bien donc un ensemble, une équipe qui peut être associée en premier auteur pour certains documents, voire en collaborateur pour d'autres documents, qui permettent à chacun membre de l'équipe d'exister par rapport au travail qu'il a pu réaliser. Voilà un certain nombre de pistes et de questions que ce webinaire souhaite aborder pour évaluer la place que prend le data paper dans cet environnement de la publication, enfin de la science ouverte et de la publication des données scientifiques. Alors, 9h46, je pense qu'on est.
Stéphane, nous avons une question de Anne Cadiou là, qui nous demandait, enfin, la réponse est un peu dans la question, mais elle me dit, le data paper ne devrait-il pas servir aussi à faciliter la recherche des données et leur réutilisation? Et on déplore que ça ne soit pas dans ton schéma.
Oui, alors c'est vrai que en 15 minutes, réussir à brosser l'ensemble de ce qu'un data paper peut apporter, ce n'est pas simple. Le data paper, je pense, doit être conçu et utilisé à différentes fins. J'ai exprimé plutôt cet exemple et pris cet exemple-là. Je pense que le data paper est capable de vi rendre visible beaucoup de données. C'est un de ses premiers buts, mais également de qualifier les données qui sont publiées, en complément, et encore une fois, de l'article principal.
Après, j'avais deux questions pour finir, personnelles. Quand tu parles de choisir une revue, on est un peu, je suppose qu'on va réaborder ce problème plus tard, mais quelle revue? Y a-t-il un inventaire des revues? Comment on peut les connaître, quoi?
Oui, alors nous ferons passer après le webinaire et sur le site du GT un certain nombre de documents concernant le data paper et il y a plusieurs listes qui existent déjà, notamment mis en place par le CIRAD ou d'autres partenaires institutionnels qui permettent d'avoir une vision des journaux existants. L'article également de Joachim Schopfel, donc, que j'ai cité tout à l'heure, et d'autres articles, rapportent également un certain nombre de listes de data journals. Il faut savoir qu'effectivement, ces data journals ne sont pas encore une fois très très nombreux, et on voit davantage de revues académiques hein, qui ouvrent des rubriques data papers qui permettent notamment la publication de ce format éditorial.
On a déjà deux questions, mais est-ce qu'on les reporte un peu plus tard ou est-ce que tu veux qu'on les...
Je préférais peut-être qu'on ne déborde pas trop sur le planning et qu'on puisse enchaîner donc sur la présentation de Sophie Pamerlan et d'Anne Grete, Nicolai.
Je note les questions, on essaiera de les dépiler à la fin des exposés.
D'accord.